Monsieur Gerald Weston. Que pouvez-vous faire? Il y a quelque temps, je recevais un email d'une personne qui voulait savoir quelle était la part de responsabilité personnelle que chacun avait dans la prédication de l'Évangile. Même s'il ne semblait pas être un membre de l'Église du Dieu vivant, sa question n'en était pas moins valide et mérite à juste titre qu'on y réponde. En effet, quelle est notre responsabilité, mis à part celle qui consiste à supporter l'œuvre? Le simple fait qu'il ait posé une telle question indique qu'il croit qu'il y a une œuvre à accomplir, et j'aimerais donc maintenant aborder ce sujet. Nous savons en effet que tous les groupes parallèles qui sont en compétition avec nous ne partagent pas tous notre opinion à propos de la nécessité d'accomplir une œuvre. Après l'éclatement de l'Église dans les années 90, plusieurs individus qui en étaient sortis se mirent à créer chacun leur groupe, tout en proclamant que l'œuvre en tant que telle était achevée, qu'il ne restait plus à présent qu'à préparer l'épouse. Ils justifiaient leur dire en citant un passage du 19e chapitre du livre de l'Apocalypse, et nous allons nous y référer sans tarder pour constater que toute leur argumentation ne repose finalement que sur la moitié d'un verset du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. On nous dit que l'épouse se doit d'être préparée. Cela m'amène à me poser la question, mais où se trouve à l'heure actuelle la plus grande partie de ceux qui composent l'épouse de Christ? La réponse est simple et ne devrait pas faire l'objet de contestation. Combien d'entre vous pensent avoir la réponse? Je vois quelques mains qui se lèvent. Bon, laissez-moi vous donner la réponse. Je dis que la majorité de ceux qui forment l'épouse de Christ sont actuellement 2 mètres sous terre. Ils attendent le retour de Christ. Si j'aborde ce sujet, c'est à cause de cette idée fallacieuse qui circule, idée selon laquelle il devra y avoir un groupe de croyants au temps de la fin qui devra être suffisamment prêt pour que Jésus-Christ puisse revenir. L'épouse de Christ sera composée des apôtres et des chrétiens de l'ère apostolique, ainsi que de tous ceux qui les auront suivis au cours de l'histoire. Nous faisons tous partie de l'épouse de Christ. La majorité de ceux qui composeront l'épouse de Christ ont donc déjà vécu et sont morts. Il est possible qu'il s'en rajoutera beaucoup à la toute fin, on ne peut le savoir. Mais pour l'heure, si on ajoutait tous les chrétiens des différents groupes actuels qui se disent être l'Église de Dieu, nous n'arriverions pas à surpasser ceux qui nous ont précédés. Donc, cette idée qu'il ne nous reste qu'à convenablement préparer l'Église pour que Christ puisse revenir ne tient pas debout. Cela témoignerait d'un manque de foi de notre part pour accomplir la tâche que Dieu nous confie, à savoir de propager l'Évangile jusqu'au temps de la fin et de prévenir le monde de ce qu'il attend. Nous ne ferions alors que nous replier sur nous-mêmes, au lieu de nous tourner vers le monde pour lui transmettre l'Évangile. Il y a une autre idée qui prévaut dans le monde, à savoir qu'il nous faut tous nous lancer dans une campagne d'évangélisation personnelle. Et c'est peut-être un peu la raison qui a motivé cette personne à m'envoyer cet email. Remarquez que l'idée d'une évangélisation personnelle ne doit pas être rejetée du revers de la main. Sauf que cela va souvent se limiter à un travail de prédateur au sein de la communauté de ceux qui veulent passer pour l'Église de Dieu. Ceux qui agissent ainsi semblent oublier qu'il y a en fait plus de 7 milliards d'êtres humains qui tous doivent être avertis à propos du retour de Christ. C'est là la tâche qui nous est confiée, et nous espérons que certains changeront d'idée et qu'ils en viendront à se joindre à nous. N'est-il pas encourageant, en effet, de voir venir de nouvelles personnes? Cette idée que l'œuvre de prédication de l'Évangile aurait été achevée il y a déjà 30 ans ne correspond tout simplement pas à la réalité. Lorsque je fus transféré à Toronto, notre congrégation se composait approximativement de 60 personnes. Je dis Toronto, mais il s'agit en fait de Mississauga, une ville de la banlieue de Toronto. tout de même la sixième plus grande ville du Canada, avec une population d'environ 720 000 personnes. Figurez-vous que cette congrégation de Mississauga a plus tard donné naissance aux nouvelles congrégations de Scarborough et de St. Catherine, de telle sorte que notre effectif combiné est maintenant de 170 à 180. Ajoutons que la plupart des nouveaux ne sont pas issus de notre ancienne affiliation, The Worldwide Church of God, ou l'Église universelle. Non, ils sont le fruit de nos émissions télévisées et de toute cette littérature que nous avons disséminée au cours des années. D'ailleurs, on pourrait en dire autant à propos d'autres régions dans le monde. Même ici à Charlotte, il y a beaucoup de membres qui ne sont pas non plus issus de notre ancienne affiliation. Ils sont nouveaux dans la foi. Quand je dis nouveaux, entendons-nous, ils sont peut-être avec nous depuis un petit nombre d'années. Le fait est que de nouvelles personnes ne cessent de se joindre à nous. Elles ont décidé de sortir de ce monde, de se repentir et de se joindre à nous pour nous appuyer dans la propagation de l'Évangile dans le monde. Nous sommes bien reconnaissants de les avoir avec nous. Chaque personne qui se repentit doit être considérée comme précieuse à nos yeux. Et il continue d'en arriver. L'œuvre n'est toujours pas achevée. Une troisième idée qui est répandue est celle qui consiste à dire que tout ce que l'Église attend de nous, c'est de prier et de payer, que c'est là la part qui nous revient. Cela me rappelle un sermon que M. Carl McNair avait donné un jour à Lake of the Ozarks, un sermon où il avait abordé ce concept de prier et payer pour supporter l'œuvre. Un concept qu'il trouvait plutôt cynique et qu'il avait passablement révolté. Mais qu'en dit la Bible? Pour le savoir, tournons-nous vers 2 Thessaloniciens 3, versets 1 et 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui exhorte les Thessaloniciens à prier pour que la parole du Seigneur se répande promptement et soit glorifiée comme elle l'est parmi nous. Voyez-vous, là encore, tous ces nouveaux dans la foi, qui étaient alors parmi eux, n'auraient pas pu être là si on avait à l'époque adopté l'idée « Bon, maintenant que Christ est mort, l'œuvre est terminée. À quoi bon continuer ?» Mais c'est parce qu'on avait poursuivi l'œuvre de prédication de l'Évangile qu'il continuait d'arriver sans cesse de nouvelles personnes. Verset 2. « Priez pour nous afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Oui, prions particulièrement pour les dirigeants de l'Église. L'apôtre parle ici de lui-même et de ses collègues dans le ministère. Lui-même ne négligeait pas non plus de prier pour les membres. En effet, dans les écrits de Paul, il est souvent question de ces prières que Paul fait à l'endroit des membres de ses différentes congrégations. Ici, cependant, Paul exhorte ses mêmes membres à ne pas négliger de prier pour lui, afin qu'il soit en mesure de prêcher l'Évangile avec plus d'efficacité. Voyons aussi Éphésiens chapitre 6 et les versets 17 à 20. Éphésiens 6, verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, verset 19, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Cela dit, nous vivons actuellement en des temps remarquables, si on en juge par tout ce qui se passe. Et il est important que nous ne cessions de prier pour les serviteurs de Dieu afin qu'ils aient le courage de prêcher la vérité. Certes, nous devons être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Cependant, si nous nous imaginons que nous pourrons toujours nous en sortir sans jamais rencontrer le moindre problème, sans jamais subir de persécution, nous avons tort. En fait, si nous devions nous en tirer sans aucune persécution, je dirais même que quelque chose ne tourne pas rond. Bien sûr, nous ne devons pas faire exprès, pour nous attirer des persécutions. Mais il faut néanmoins que l'Église prêche l'Évangile avec hardiesse. C'est dans notre intérêt. Ne pas le faire nous attirerait des problèmes. Le monde doit l'entendre. Il est vrai qu'ils ne seront pas plus portés à nous écouter qu'ils ne l'ont été en ce qui concerne Ésaïe, Jérémie, Daniel ou tous les autres. Ils ne vont pas écouter, mais au moins ils se souviendront qu'ils avaient été prévenus. Hier après-midi, j'ai eu l'occasion d'écouter les nouvelles alors qu'on interrogeait trois ministres à propos du projet de loi numéro 2 de la Chambre. L'un était carrément en faveur. Un autre exprimait une opinion partagée. Quant au troisième, une femme cette fois, son opinion était tout à fait contraire à celle que nous aurions en la matière. Selon elle, nous étions tous à blâmer, que c'était une chose honteuse que de discriminer ainsi entre les gens. Ce qui fit dire aux journalistes qu'ils trouvaient intéressant de voir toutes ces divergences d'interprétation que les gens vont avoir à propos de la Bible. Comment peut-il y avoir autant de façons de réagir quand elle annonce sans embâge qu'aucun homosexuel ou sodomite n'héritera le royaume de Dieu? On ne peut le dire plus clairement, il me semble. Allez par exemple à Lévitique 18 ou Lévitique 20 et vous verrez clairement qu'elle dit que c'est une abomination pour un homme que de coucher avec un autre homme, de même en ce qui concerne des femmes. La Bible condamne une telle pratique et la considère comme une abomination à maints endroits. Ceux qui s'objectent, tout en cherchant à imposer leur propre vision des choses, le font sans jamais tenir compte de ce qui est clairement dit dans les Écritures. Mais personne n'osera le leur faire remarquer. Ainsi, la Bible montre qu'il nous faut prier les uns pour les autres. Il nous faut prier pour que les dirigeants de l'Église prêchent la vérité avec témérité. Pensons par exemple à Étienne, dans Actes le chapitre 7. Il défendit la vérité avec audace. Certains diront qu'il manqua de sagesse. Toujours est-il que la Bible le déclare un héros. Il n'avait pas peur de parler. Par ailleurs, comment réagir à ce concept de payer? C'est un sujet auquel je pourrais consacrer tout le reste de ce sermon. Mais laissez-moi plutôt vous suggérer une brochure que nous avons publiée sur le sujet. Son titre est « Le peuple de Dieu paie la dîme ». Note du traducteur, cette brochure n'a hélas pas encore été traduite. Au cours des années, j'ai entendu quantité d'arguments que vont avancer ceux qui s'objectent à cette pratique. Ils diront par exemple « D'accord, le principe est louable, mais ce n'est pas vraiment requis ». Pas requis? Eh bien, lisez la brochure. Payer la dîme fait partie de nos responsabilités, à vous comme à moi. Il nous faut tous soutenir l'œuvre afin qu'elle puisse être accomplie. Il est indéniable qu'en regroupant nos efforts, nous pourrons accomplir davantage. L'union fait la force, dit-on. L'œuvre que nous accomplissons ici à Charlotte et à travers le reste du monde est le résultat de l'effort collectif de chacun. Considérons ceci. Où sont tous ces groupes qui mettent tous leurs efforts dans un projet d'évangélisme individuel? Ou qui déclarent que l'œuvre est achevée et qu'il ne reste rien d'autre à faire? Où sont-ils? Oh, ils sont nombreux dans l'espace cybernétique. Mais ont-ils vraiment connu de la croissance? Par ailleurs, s'ils ont connu un peu de croissance, est-ce sous la forme de personnes nouvellement acquises à la vérité? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'on aurait arraché des gens qui faisaient partie d'un groupe parallèle? Il y a donc ceux qui travaillent collectivement dans le but de répandre l'Évangile et qui, de ce fait, connaîtront de la croissance. Et puis il y a ceux qui vont se comporter en parasites, mais ils n'auront qu'une piètre croissance. Une fausse idée largement répandue est que la majorité de nos membres sont ici à la suite d'un évangélisme personnel. C'est là un concept que j'entendais souvent dans le passé. À savoir que la plupart d'entre nous sont venus à la vérité par suite d'une campagne d'évangélisation individuelle. Autrement dit, il n'est pas vraiment nécessaire de consacrer autant d'argent pour diffuser notre message par le biais de la télévision ou de ces autres médias qui nous sont disponibles. une telle affirmation n'est que partiellement vraie. Laissez-moi m'expliquer. En ce qui me concerne, on pourrait penser, en effet, que je suis venu à l'Église à la suite d'un évangélisme personnel. Pendant mes années au secondaire, je prenais l'autobus scolaire en compagnie d'un gars qui se trouvait être le frère d'un de mes amis. Ce garçon tenait parfois d'étranges propos. Ainsi, il lui arrivait de parler du soleil qui se changerait en sang, ou d'autres choses bizarres. Il parlait de prophéties et de bêtes étranges. Comme nous ne parvenions pas à le faire taire, je convins finalement de lire la brochure d'où il sortait ses idées farfelues, à la condition toutefois qu'il cesserait alors de nous casser les oreilles avec de tels propos. Cette brochure avait pour titre « Le livre de l'Apocalypse enfin dévoilé ». Il se trouva par hasard que, le soir où je lus cette brochure, je ne me sentais pas bien, et je suis certain que ce n'était pas à cause de ce que j'y avais lu. Toujours est-il que le contenu de cette brochure m'impressionna beaucoup. On peut donc dire que je suis venu à l'Église à la suite de cet évangélisme individuel. Pour ce qui est de ma femme, elle est ici parce que son père était venu à l'Église. Elle aussi est donc le fruit d'un évangélisme personnel. Et je pense que si je me livrais à un sondage parmi vous, il s'avérerait que beaucoup d'entre nous sont ici pour la même raison. Si vous êtes né et avez grandi dans l'Église, vous aurez été soumis à l'évangélisme personnel de vos parents. Ceci pourrait cependant nous induire en erreur, car, n'était le support du corps de l'Église, ses brochures, ses magazines, ses cours d'études bibliques, ses émissions de télévision, les services qu'elle offre sur Internet, ainsi que les assemblées sabbatiques, le nombre de ceux qui pourraient prétendre que leur conversion résulte d'un évangélisme individuel serait nettement moins élevé. Je puis vous assurer que je ne serais pas venu à l'Église rien qu'à la suite de l'évangélisme personnel du frère d'un de mes amis, si je n'avais pas eu accès à cette brochure et à tout le reste, le magazine, les autres brochures, et tout le reste qui m'a mis sur la voie de la vérité. Ainsi, il faut plus qu'un évangélisme isolé. Il faut l'effort collectif de gens dédiés à une cause commune et travaillant de concert à une œuvre commune. Il faut publier un magazine, avoir des émissions radiophoniques, c'était le cas au début, et télévisées, et maintenant une présence accrue sur Internet. Il faut une équipe solide en arrière de tout cela. En résumé, oui, il est vrai qu'un bon nombre d'entre nous sont ici en raison de quelque évangélisme personnel. Mais nous ne serions pas vraiment ici sans le support d'une Église en arrière de tout cela. Je parle pour moi, mais je pense que d'une façon générale, il ne peut y avoir une croissance prolongée sans un effort collectif en arrière-plan. Ecclésiaste 4, verset 9, nous donne ici un principe lorsqu'il dit Ecclésiaste 4, verset 9 « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » L'union fait la force, dit-on. Oui, et à deux, le travail s'accomplit plus facilement. Verset 10 « Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » De même, verset 11 « Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Quand plusieurs personnes collaborent à un projet, on a plus de chances d'aboutir à un meilleur résultat. Cela me fait penser à une autre image mentale. Ainsi, on peut aisément briser une petite tige de bois prise isolément, mais lorsqu'on groupe ensemble plusieurs d'entre elles, cela devient vite impossible. Par analogie, lorsqu'on travaille en équipe, on peut généralement accomplir bien plus qu'en étant seul à la tâche. En fin de compte, dire que notre tâche individuelle ne consiste finalement qu'à prier et à payer n'est pas en accord avec les Écritures. Voyons à présent certaines de ces choses que nous pouvons et devons faire. Montrer un bon exemple fait partie de ces choses. Il y a des cyniques qui vont tourner cela en ridicule et dire « Jamais personne n'est venu à l'Église à cause d'un bon exemple, et certainement pas à cause du mien. » Pourtant, Matthieu 5 ne dit-il pas qu'un bon exemple est une chose importante? Je crois que vous êtes ici parce que vous croyez ces choses. Nous croyons, par exemple, qu'il nous faut accomplir une œuvre et qu'en travaillant ensemble, cela fera toute une différence. Voyons Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, verset 16, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notez que Jésus nous dit de faire briller notre lumière, d'être un exemple. Après avoir procédé à une première ébauche de mon sermon, je m'étais mis à la recherche d'une de nos publications dans le World Tomorrow, le monde de demain. Finalement, n'ayant pu la trouver, je tombais par hasard sur un article de Dr. Meredith qui avait paru dans le Living Church News de juillet-août 2016, article dont le titre était justement « Faites briller votre lumière ». Dans cet article, Dr. Meredith écrivait, et je cite, « Êtes-vous une lumière ?» Jésus avait dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Plus tard, il avait ajouté « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Entre-temps, il leur avait dit « Qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais qu'on la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Mais comment devons-nous faire briller notre lumière devant les hommes? Notez que Jésus avait dit « Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il n'est pas dit qu'il serait soumis à un déluge de paroles tirées de la Bible. Quant à nos bonnes œuvres, c'est quoi? C'est toute cette bonté et toutes ces marques d'attention que nous montrerons à l'égard de notre prochain. Ce sera notre esprit de sacrifice, notre exemple de ce qu'est le mode de vie d'un véritable chrétien au quotidien. Tout cela devra en fin de compte nous mériter admiration et respect même chez des gens non encore convertis. Un jour, ils en viendront à comprendre que c'est Dieu qui nous aidait à vivre de cette façon, et ils seront alors amenés à le glorifier à leur tour. Comprenez bien que le fait de se perdre en arguments et en disputes, ou d'essayer de convaincre les autres qu'ils sont dans le tort, cela n'est nulle part considéré comme une bonne œuvre. Si vos amis ou votre parenté ne sont pas intéressés à l'Église, le fait de leur casser les oreilles avec votre religion ne leur sera d'aucune utilité. » Fin de la citation. Je pourrais vous demander de lever la main, ceux d'entre vous qui avaient fait la même erreur que moi dans ce domaine. Oui, lorsque je me suis mis à découvrir la vérité à mes débuts, j'étais tellement emballé que j'essayais d'en parler à tout le monde autour de moi. Mais personne ne semblait intéressé à m'entendre. Ma sœur en vint même à dire « Il ne me viendrait jamais à l'idée de me joindre à votre église, ne serait-ce qu'à cause de toi et de ton copain. » Alors j'ai fini par me taire. Vint ensuite la crise des missiles cubains. Sachant que nous avions une certaine compréhension au sujet de la prophétie, ma sœur se mit alors à me poser des questions. Elle finit même par venir à l'église et à s'inscrire à l'Ambassador College. Elle se trouve à présent dans un autre groupe. Mais le fait est qu'elle finit par faire ce qu'elle avait initialement refusé de faire. Mais pour en arriver là, il avait fallu que je commence par me taire. C'est que je m'étais évertué à la convertir de force, comme plusieurs parmi nous l'ont probablement fait eux aussi. Nous nous efforçons de convaincre notre prochain sur le champ, au lieu d'attendre que Dieu le fasse autant qu'il jugera opportun. Voyons 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7,
verset 16.
Car, sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou, sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Autrement dit, ne cherchez pas à divorcer si votre partenaire consent à rester avec vous, car cette personne pourrait un jour parvenir à la repentance. Vous savez, je sais fort bien qu'il y a ici des gens dont l'un des conjoints s'était tout d'abord intéressé à la vérité, alors que l'autre ne voulait rien savoir. Puis, l'autre a fini par suivre à son tour. C'est un phénomène que j'ai pu observer bien des fois au cours des années passées. J'ai même vécu des situations où celui qui s'était intéressé en premier ne fut pas celui qui se fit baptiser le premier. Oui, quand je leur rendais visite, l'un ne manifestait tout d'abord aucun intérêt. Mais plus tard, par l'exemple de l'autre, ou tout simplement pour avoir été exposé à la vérité qui était à portée de la main, voilà que l'autre se met à emboîter le pas. Encore une fois, notre exemple compte, et l'apôtre Paul nous le confirme. Certes, pas toujours, mais Paul s'empresse d'ajouter « qui sait ?» Effectivement, et nous avons pu l'observer maintes fois au cours des années, certains se retrouvent finalement parmi nous suite à l'exemple d'autres personnes. Notre exemple peut aussi avoir une influence déterminante sur nos enfants. Pas tous nos enfants nécessairement, je comprends cela. Tout de même, cela a une influence sur eux lorsqu'ils voient que leurs parents sont heureux et épanouis. Oui, lorsqu'ils voient que nous faisons ce qui est bien, cela ne manquera pas de susciter en eux du respect à notre égard. Là encore, lorsqu'ils constatent que Dieu a béni leurs parents parce qu'ils font ce qui est droit à ses yeux, c'est un exemple pour eux. Ce n'est donc pas seulement ce que nous leur enseignerons qui est déterminant, mais aussi l'exemple que nous leur laissons en vivant selon les normes que nous cherchons à leur inculquer. Oui, notre exemple peut faire toute une différence. Voyons à présent 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Il ne suffit donc pas d'être seulement un exemple à ceux du dehors. Paul demande ici à Timothée d'être aussi un exemple pour les membres de sa congrégation. Cela fera aussi une différence. Je ne pourrais pas vous dire combien de jeunes gens j'ai entendu dire au cours des années « Il y a un tas d'hypocrites dans cette église ». Je ne veux évidemment pas dire « ici » à Charlotte. De fait, selon ce que j'ai pu voir depuis le peu de temps que je suis ici, nous avons ici un groupe de jeunes tout à fait exemplaires. Ce n'est pas le cas partout. N'empêche que j'ai entendu certains jeunes qui se plaignaient de voir tant d'hypocrites dans l'église, et ils ne visaient pas nécessairement leurs parents en disant cela. Cela dit, je sais que les jeunes ont tôt fait de noter des comportements hypocrites parmi nous, ce qui ne les met d'ailleurs pas eux-mêmes à l'abri d'un tel comportement lorsqu'ils sont ailleurs qu'à l'église. Quoi qu'il en soit, efforçons-nous de veiller sur notre comportement afin de ne pas les rebuter, de ne pas leur fournir d'excuses pour agir d'eux-mêmes. Je connais un individu qui est actuellement dans l'église. Il est même un ministre à présent. Lorsqu'il était à l'école secondaire, et non converti, il avait pour meilleur ami un jeune qui venait à l'église. Je ne donnerai pas de nom car ces personnes sont parmi nous à présent. Bref, l'individu menait la vie dure à son meilleur ami, et cela uniquement parce que celui-ci faisait partie de l'église. Une fois leurs études secondaires terminées, ils empruntèrent des chemins différents. Cependant, à cause de l'exemple que lui avait donné son meilleur ami qui était dans l'église, cet individu en vint finalement à entrer dans l'église à son tour, même qu'il est à présent un de nos ministres. Voyez le pouvoir de l'exemple. Oui, ces choses arrivent. Certains se demanderont, « Et alors, que dire si personne ne vient à l'église à cause de mon exemple ?» Vous savez, pour ma part, je ne connais personne qui soit entré dans l'église à cause de mon exemple. Il m'est cependant arrivé de vivre une expérience plutôt insolite. Nous avions des voisins avec qui nous nous étions liés lorsque nous vivions au Canada. Ils étaient musulmans, bien que non pratiquants. Ma femme les a souvent aidés en s'occupant de leurs enfants car le mari avait testé séropositif lors d'un dépistage du VIH. Il avait par ailleurs quantité d'autres problèmes de santé, et c'est pourquoi il finit par être confié à une maison d'accueil, et, quant à sa femme, elle dut retourner travailler pour supporter la famille. Le couple avait deux filles qui avaient souvent besoin de se faire garder, et c'est ce que ma femme faisait. La mère travaillait pour une compagnie où elle s'occupait d'ordinateurs, un domaine dans lequel elle était experte. Un jour, elle me confia qu'elle avait vu une partie d'un de mes sermons sur Internet. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait bien pu voir. Il est vrai que j'étais alors beaucoup occupé avec des jeunes et avait travaillé à la production de quelques études bibliques pour eux. Oh, c'était là un travail d'amateur, en particulier pour le côté graphisme, car nos moyens étaient très limités. Mais bon, c'était tout de même quelque chose. Elle avait fait une recherche sur Google en tapant mon nom, et c'est vers ce projet qu'elle fut orientée. Évidemment, elle était un peu curieuse à notre sujet. Elle voulait savoir qui étaient ses voisins d'en face. Oh, elle avait déjà une petite idée à notre sujet, pour avoir posé quelques questions dans le passé. Questions auxquelles nous avions répondu, tout en expliquant certains points. Vous savez, je pense que nous serions surpris d'apprendre ce que nos voisins savent à notre sujet. Ainsi, ils ont dû remarquer que chaque samedi, nous prenons la voiture et partons, parés de nos plus beaux atours et le porte-document à la main. Sûrement qu'ils ont dû conclure que nous allons à l'église le samedi, ne serait-ce que parce que je passe toujours la tondeuse le dimanche. Faut ajouter cependant que nous attendons toujours qu'un de nos voisins l'ait fait avant nous, histoire de ne pas déranger leur repos dominical. Une des choses qui nous a vraiment étonnés lorsque nous avons quitté le Canada, c'est le nombre de voisins qui vinrent nous trouver pour nous dire à quel point ils regrettaient de nous voir partir. Savez-vous pourquoi? C'est que ma femme s'était toujours efforcée de prendre bien soin de notre pelouse et de notre jardin. C'est étonnant à quel point des détails de ce genre laissent une bonne impression à ceux de votre entourage. Les gens ne resteront pas insensibles à ce genre de choses. À l'inverse, pensez à ce que vous ressentiriez vous-même, advenant que l'un de vos voisins laisserait envahir sa pelouse par les mauvaises herbes et que toute sa cour ne serait qu'un amas de déchets de tout genre. Un tel voisin ne contribuerait sûrement pas à rehausser la valeur marchande de votre propriété, pas vrai? Sans compter qu'une telle personne ne servirait pas non plus d'exemple aux autres voisins afin qu'ils prennent part à l'embellissement de votre quartier. Voilà donc une de ces choses que vous pouvez faire. Et de tels efforts de votre part seront remarqués. Ils ont de l'importance. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est de donner un bon exemple lorsque nous serons au service sabbatique. Jean 13, verset 35 dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Toutes les congrégations sont différentes. Elles sont différentes pour une variété de raisons, mais principalement à cause des différentes personnalités qui la composent. Le nombre de membres n'est pas le facteur essentiel, car il suffit souvent d'un petit nombre de gens pour lui donner un cachet particulier, que ce soit pour son avantage ou à son détriment. J'entends souvent des commentaires de gens qui visitent d'autres congrégations. Ils diront alors à quel point ils ont aimé l'ambiance qui y régnait. « Ce groupe dégage tant de chaleur humaine, diront-ils. » Il arrivera aussi à l'occasion qu'une congrégation soit accusée de froideur. Si vous avez conscience que votre congrégation passe pour manquer de chaleur humaine, pourquoi ne pas relever le défi et devenir un instrument qui changera cette impression? Vous savez, parfois il suffit de l'action d'une personne pour faire pencher la balance du bon côté. Au risque de me répéter, ces choses arrivent parfois, laissez-moi vous relater un incident qui s'est produit il y a un certain temps dans une des congrégations que je servais à l'époque. Il se trouvait là une famille qui avait commencé à assister à nos services suite à l'une de nos conférences publiques dans leur région. La femme m'avait confié plus d'une fois qu'ils avaient le sentiment que la congrégation ne semblait pas s'intéresser à eux. Un beau jour, elle avait même prié à ce sujet, demandant à Dieu d'intervenir ce jour-là pour que la situation change, ou qu'alors il cesserait de venir aux assemblées. Eh bien, figurez-vous que ce jour-là, après les services, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, voilà que l'un des membres les aperçoit au moment où ils franchissaient la porte. L'idée lui est alors venue : Oh, je n'ai pas parlé à ce couple aujourd'hui. Il se hâte alors de les rejoindre pour leur faire part de sa joie de les avoir revus et de l'importance qu'il attachait à leur présence parmi eux. Et la femme d'ajouter : Monsieur Weston, ce que cette personne a fait ce jour-là est la raison, la seule raison pour laquelle nous sommes toujours ici aujourd'hui. Une personne seule peut-elle avoir une influence sur le cours des événements? Cela me semble évident, à en juger par ce témoignage. Parfois, vous, les membres laïcs, vous pouvez faire des choses qu'il ne nous est pas possible de faire, nous les ministres, car nous sommes souvent sollicités de tous bords, tous côtés. Ainsi, lorsque vous aurez remarqué une nouvelle personne dans l'assemblée et que vous n'aurez pas de responsabilité spécifique, pourquoi ne pas aller au-devant d'elle pour la saluer, la mettre à son aise et lui dire à quel point vous appréciez sa présence parmi vous? Là encore, comprenez bien qu'un tel geste de votre part peut faire toute une différence pour une personne nouvelle. C'est bien important. Cela lance un message à l'autre : Nous avons noté votre présence, nous vous apprécions, nous avons votre bien à cœur. Je tiens à présent à m'adresser plus particulièrement aux jeunes qui sont parmi nous. Vous, les jeunes, peu importe si vous avez 10 ou 15 ans, et même si vous n'êtes pas plus âgé que 7 ou 8 ans, en autant que vous compreniez ce que je dis, j'ai un message très important pour vous. Écoutez-moi bien. Quand j'étais jeune, j'ai vécu beaucoup de déménagements. Mon père travaillait pour l'armée, si bien qu'il fut souvent muté ailleurs au cours des années. Lorsque nos parents nous disaient qu'on serait invité chez quelqu'un pour la soirée, la première question qui nous venait alors à l'esprit, ma sœur et moi, c'était « Ont-ils des enfants de notre âge ?» C'est que, si tel n'était pas le cas, la soirée promettait d'être bien ennuyeuse pour nous. D'ailleurs, cela est bien connu de tous les parents, qui vont toujours s'efforcer de s'associer à des familles qui ont des enfants elles aussi. Ainsi, lorsque vous irez à l'assemblée sabbatique, si vous apercevez là un nouveau, soyez assez téméraire pour aller au-devant de lui. Présentez-vous et faites-lui comprendre que vous êtes heureux de le rencontrer. Cela va l'encourager. Et puis, vous savez, lorsque les jeunes sont contents d'être là, il en sera de même des parents. À l'inverse, si leurs enfants font continuellement la moue lorsqu'il s'agit d'aller au service, les parents pourraient parfois envisager de ne plus venir aux assemblées. Voyez-vous, même si vous êtes jeune, vous pouvez aussi faire une différence. Nous avons parfois des jeunes dans l'Église qui ne sont pas du tout timorés. Ainsi, je me souviens de cet incident qui remonte à 1983 ou 1984. Cela se passait un jour de sabbat. Nous étions à Marion, en Caroline du Nord. Ce jour-là, le pianiste était absent. Nous avions été contraints de chanter a cappella. Soudain, alors que nous nous apprêtions à chanter notre dernier cantique, voilà que la personne en charge nous informe qu'on venait de trouver quelqu'un pour nous accompagner au piano. C'était drôle. Il s'agissait en fait d'un petit gars de 7 ans tout au plus, et c'est à peine si je pouvais lui voir la tête. Mais il eut le courage de se porter volontaire, même s'il ne pouvait jouer que d'une main. C'est ce que j'appelle être téméraire. Rendu à la fin, il nous a même encore servi une note ou deux de sa propre composition. J'avoue que je n'aurais pas osé. Encore une fois, n'ayez pas peur de vous affirmer. Il n'est pas nécessaire pour cela d'être un adulte. Vous, les jeunes, vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution et faire en sorte de contribuer à la croissance de l'Église. Venons-en maintenant à une autre façon de pouvoir vous rendre utile, celle à laquelle on pense souvent en premier, l'évangélisation à titre personnel. Cela convient-il aussi? Réponse : Oui, pour cela, il y a aussi une place. Voici un certain nombre de choses que vous pourriez faire. Franchissez des portes lorsqu'elles s'ouvrent à vous. Nous avons dû tenir une réunion d'affaires au Royaume-Uni pour présenter notre plan de retraite. C'est que tout organisme, peu importe son importance, se doit d'avoir un plan de retraite. Nous avions donc parlé à cette dame lorsque, vers la fin de notre exposé, elle nous lança « Qu'est-ce donc qui rend votre Église si différente des autres ?» Je lui expliquai alors certaines choses, ce qui me valut cette question additionnelle. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, où cela nous mènera-t-il selon vous? Je me dis alors à moi-même, si à présent elle n'apprécie pas ma réponse, elle n'avait qu'à pas me poser une telle question. Je considérais donc cette opportunité comme une porte ouverte et fis de mon mieux pour l'aider à réfléchir sur certains points. J'ajoutais finalement, les choses vont continuer d'empirer jusqu'à ce qu'elles s'améliorent finalement selon notre compréhension. Toujours est-il qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte de vous-même, en observant la personne, que vous feriez mieux de ne pas en dire plus. Mais vous lui aurez tout de même laissé certains éléments de réflexion. À une autre occasion, quelqu'un m'avait ouvert la porte, et je ne l'ai point franchi. Cet homme était le frère d'un de nos membres. Il venait d'avoir une crise cardiaque et se trouvait à l'hôpital. J'avais eu l'occasion de le visiter en compagnie de son frère. À un moment donné de la conversation, il en vint à poser la question « Finalement, c'est quoi le but de la vie ?» Il avait 62 ans. Par la suite, je me suis demandé si je n'aurais pas dû lui parler. Il n'avait pas écouté ce que son frère lui avait probablement dit précédemment, mais il aurait peut-être réagi différemment si quelqu'un d'autre le lui avait expliqué. Peut-être se serait-il converti si j'avais réussi à piquer sa curiosité. Il avait frappé à une porte. Son intérêt semblait réel. Peut-être que j'aurais dû satisfaire cet intérêt en répondant à sa question. Nous avons aussi cet exemple de l'eunuque éthiopien. C'est au chapitre 8 du livre des Actes, où Dieu fait appel à Philippe pour qu'il engage la conversation avec cet homme. Une porte s'ouvrait pour lui, et l'Esprit de Dieu lui indiquait de saisir l'occasion. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » C'est donc un ange qui lui avait parlé. Bien que nous ne sachions pas si l'ange lui avait parlé en esprit ou s'il lui était apparu en personne. Verset 27. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Cet eunuque avait visiblement des moyens, car, à l'époque, seuls quelques privilégiés avaient ainsi accès aux Écritures. C'étaient des parchemins, tous écrits à la main. Il tenait alors le rouleau d'Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Une manière adroite de s'introduire. Il répondit, verset 31, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Dieu arrange parfois les circonstances, et celle-ci est très inhabituelle. J'aurai une autre anecdote à vous conter. J'espère seulement que je ne vous l'ai pas déjà racontée plusieurs fois dans le passé. Il est parfois des situations où vous serez amené à faire quelque chose, et Dieu va peut-être alors en profiter pour vous ouvrir une porte. Ainsi, lorsque je prends l'avion, il est très rare que je vais lire un magazine. Je préférerais lire un livre, car cela est un luxe que je peux rarement me permettre en temps normal. Mais j'éviterai néanmoins d'étaler ma Bible devant tout le monde. Je décidai finalement de sortir mon ordinateur, histoire de lire tous ces messages qui s'étaient accumulés ces derniers jours. Hélas, comme de nos jours on vous accorde si peu d'espace dans les avions, et que, de plus, J'ai les bras un peu longs pour un espace aussi exigu. Je renonçai vite à ce projet et me mis plutôt à feuilleter un exemplaire du Tomorrow's World, le monde de demain, qui se trouvait par hasard être dans mon porte-document. Nous n'avions pas encore décollé. Nous étions toujours sur le tarmac en attente du permis de décollage. Encore une fois, il m'arrive très rarement de lire un magazine lorsque je prends l'avion. C'était exceptionnel ce jour-là. Par ailleurs, la plupart du temps, j'ai un vol direct entre Vancouver et Toronto. Mais il a fallu que, ce jour-là, notre plan de vol comporte une escale à Edmonton. J'avais donc sorti mon exemplaire du Tomorrow's World et je commençais à le parcourir des yeux lorsqu'un passager vint prendre place sur la banquette à côté de moi. Dans cet avion, il n'y avait pour chaque rangée que deux banquettes d'un côté, un couloir et deux banquettes de l'autre côté. C'est dire que nous étions proches les uns des autres. Bref, j'avais donc commencé à lire lorsque ce nouveau venu, que je n'avais jamais rencontré auparavant, m'interpella en disant « Connaissez-vous Roderick Meredith ?» Quoique étonné de me faire poser cette question, je répondis néanmoins « Effectivement, je le connais. » Il voulut alors savoir si je l'avais déjà rencontré en personne. Il ne cessa de poser d'autres questions jusqu'à ce que, en fin de compte, il se mit à me révéler que son père était un membre de cette église. À cela, je répondis en disant « Vraiment ? Et où habite votre père ?»« Dans la région de Halifax », fut sa réponse, autrement dit à l'autre extrémité du pays. J'ajoutai alors « Savez-vous, j'ai déjà été le pasteur de cette congrégation, et il m'est arrivé plus d'une fois de m'y rendre en avion. Je connais beaucoup de membres là-bas. Qui est votre père ?» Il me dit alors son nom, et je reconnus d'emblée le nom de notre ministre de là-bas. Les choses commençaient à s'éclaircir, car, à présent, je savais à qui j'avais affaire. Je savais notamment que cet homme devait être dans la quarantaine et qu'il avait eu un fils qui mourut d'une mort tragique suite à un terrible accident d'auto. Cet accident avait eu lieu l'année précédente, alors qu'il se rendait à son travail. Mon interlocuteur, je le savais, avait grandi dans l'église. Alors que nous poursuivions notre conversation, il m'étonna plusieurs fois en répétant spontanément « Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a vécu une grande partie de sa vie en s'appuyant sur des croyances solidement ancrées, puisse ensuite soudainement changer du tout au tout, uniquement parce qu'il arrivera un autre ministre qui prêchera des choses totalement différentes. C'est là une autre de ces fois où je regrettais de n'avoir pas été plus volubile. J'aurais dû lui dire « Comment se peut-il que, vous-même, vous avez cru toutes ces choses auxquelles vous aviez cru, pour ensuite les laisser glisser entre vos doigts. » D'un côté, je pouvais comprendre. Il menait un grand train de vie. Il revenait de Kitimat, où il avait travaillé 3 semaines durant, et s'apprêtait à passer 1 semaine à la maison, avant de retourner au travail. Il faisait un gros salaire, ses affaires allaient bien. C'était là son problème, comme son père allait me le confirmer. Les choses vont trop bien pour lui. Je priais secrètement. Mon Dieu, ouvre-lui les yeux et qu'il comprenne que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. En effet, il y a eu là un concours de circonstances pour le moins étrange. C'est tout de même incroyable. Ici, vous avez un individu qui prend le même avion que vous. Et pas juste le même avion, il se trouve qu'il prend place à côté de vous, dans un avion où toutes les places sont occupées. Ensuite, il y a le fait que je lisais alors un Tomorrow's World, chose que je ne fais jamais à bord d'un avion. Si je n'avais pas sorti ce magazine, il ne se serait probablement rien passé entre nous. Je suis persuadé que tout cela n'était pas le fruit du hasard. C'est aussi pourquoi j'avais hâte de téléphoner à son père. Il quitta l'avion à Edmonton. Quant à moi, il me fallut poursuivre jusqu'à Toronto. Ensuite, à cause de la longueur de ce vol et du décalage horaire, il me fut impossible de parler à son père avant le lendemain. Lorsque je pus enfin loger mon appel et dire à son père, « Devinez un peu qui j'ai rencontré. » Il était déjà au courant de tout, car son fils lui avait déjà tout raconté. Non seulement cela, mais il reconnaissait lui-même que tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais que Dieu devait avoir des intentions à son égard. Peut-être n'était-il pas encore tout à fait prêt pour agir. Peut-être que c'est une situation similaire à celle de plusieurs de nos enfants qui ne sont peut-être pas avec nous à l'heure actuelle, mais que Dieu n'a pas abandonné pour autant. Ainsi, lorsque vous prendrez l'avion, ou le train, ou encore l'autobus, n'hésitez pas à sortir votre magazine. On ne sait jamais. Cela pourrait vous ouvrir une porte. Et puis, lorsqu'une telle porte s'ouvrira, n'hésitez pas à la franchir. Il ne s'agit pas de la défoncer, bien sûr. Si l'autre personne ne se montre pas réceptive, n'insistez pas. Cela ne servira à rien d'insister. Inversement, si elle réagit avec intérêt, ne soyez pas timide. En ce qui me concerne, j'ai remarqué que je suis ou bien trop impatient de dire la vérité, ce qui m'amène souvent à faire des bêtises, ou alors je suis trop timide pour agir, ou pas assez téméraire lorsque je devrais parler. Difficile de trouver le juste milieu, pas vrai? Je crois d'ailleurs que je ne suis pas seul dans cette catégorie. Beaucoup d'entre nous ont passé par là. Au début, nous parlions trop, et maintenant nous sommes devenus réticents à dire quelque chose. Et cela n'est évidemment pas bien. Il nous faudrait trouver un juste milieu. Abordons maintenant le sujet des médias sociaux. Si vous allez sur le site web du Monde de demain, vers le bas de la page d'accueil, vous trouverez une section intitulée « Les plus populaires ». Voilà une façon qui nous permettrait d'amener des gens en contact avec la vérité. Vous avez sûrement beaucoup de connaissances dans votre parenté et parmi vos amis ou collègues de travail. Si je ne considère que la liste de nos émissions de télévision qui sont partagées en ce moment même, que vois-je ? Très populaire en ce moment est l'émission « Noël, est-il chrétien ?» Celle-ci est partagée 363 fois. Si vous considérez à présent que chacune de ces 363 personnes pourrait maintenant exposer toutes les personnes de son cercle d'amis à cette émission, vous pouvez du même coup imaginer à quel point l'impact de notre effort va aller en grandissant. Il pourrait en résulter un effet boule de neige. Il y a évidemment bien d'autres productions que les gens vont se partager. Par exemple, la brochure « Les États-Unis, la Grande-Bretagne en prophétie » qui a donné lieu à 833 partages. Ou la brochure « À propos des jours saints » qui a donné lieu à 731 partages. Où est-ce que je veux en venir? Comprenons bien que nous sommes loin d'avoir exploité à fond toutes les possibilités de l'Internet. Il nous faut cependant agir avec discrétion. Évitons de partager certaines choses avec des personnes dont nous savons qu'elles ne seront pas intéressées. Il y a cependant des thèmes d'intérêt général, comme ceux que nous devons à M. Wallace Smith. Ainsi, ses articles scientifiques, celui à propos du cœur, cet autre à propos de la main, pour n'en citer que quelques-uns. Nous connaissons probablement bien des gens dont nous savons qu'ils croient en la création, et leur envoyer des productions de ce genre pourrait les intéresser. Mais évitons de partager sans discrimination. Nous ne voulons tout de même pas nous attirer la remarque « Tiens, voilà encore ce fada qui tente à nouveau de nous vendre sa religion ». Limitons-nous à des thèmes qui soient d'actualité, des thèmes d'intérêt général, des thèmes qui nous permettront de nous ouvrir aux autres et non de nous les aliéner. Je n'ai pu m'empêcher de noter que le nombre de ces partages sur les médias sociaux est plutôt petit en comparaison du nombre de membres que nous avons et dont nous savons qu'ils sont sur Facebook, YouTube ou ces autres médias. Cela ne veut pas dire cependant que nous ne rejoignons pas beaucoup de gens, car tout dépend du facteur multiplicateur dont chacun sera capable. On pourrait aussi mentionner cette rubrique « Nouvelles et prophéties » ou l'autre intitulée « Commentaires ». Nous avons présentement 21 000 abonnés à notre rubrique « Nouvelles et prophéties » et cela inclut beaucoup de gens qui ne font pas partie de l'Église. Combien d'entre nous sont abonnés à cette rubrique et la partagent avec leur cercle d'amis? Selon notre estimation, pas plus de 25%. Il y a donc beaucoup de personnes en dehors de l'Église qui profitent de ces productions grâce aux possibilités de l'Internet. Cela dit, quoi que nous fassions, n'oublions pas qu'en définitive, c'est Dieu seul qui décide qui il veut appeler à son Église à notre époque. J'ai souvent remarqué que ce ne sont pas ceux dont on attendrait qu'ils viennent à l'Église qui franchiront le pas. Ainsi, de tous mes copains de classe du secondaire, à qui je m'étais efforcé de communiquer la vérité, il n'y en a eu qu'un seul qui soit finalement venu à l'Église, et même au Ambassador College. Et encore, en y réfléchissant, je ne suis même pas sûr de lui en avoir parlé, car il m'avait donné l'impression qu'il ne serait probablement pas intéressé. C'est peut-être justement le fait que je ne lui en ai pas parlé, alors qu'il entendait toutes ces rumeurs venant de mes autres copains, qui l'a rendu curieux et a mené à faire des recherches. C'est drôle comment les choses se passent parfois. Entre parenthèses, j'ai su par la suite qu'il y eut 8 élèves de cette école qui vinrent finalement à l'Église, et 4 d'entre eux allaient même s'inscrire au Ambassador College. Il serait bon de prier pour que Dieu vous accorde de la sagesse dans ce domaine. Il ne s'agit pas en effet de faire notre volonté. Demandons-lui de nous indiquer quand une porte s'ouvre devant nous. Parfois, les gens vont dire des choses qui devraient nous indiquer s'ils sont intéressés à connaître la vérité ou s'ils ne le sont pas. Il nous faut de la sagesse pour pouvoir discerner s'ils désirent sincèrement la connaître. Priez aussi pour de l'humilité. Ne dressez pas une liste de personnes à qui vous avez donné un témoignage. Il ne s'agit pas de nous enorgueillir du bon score que nous avons obtenu pour nos activités d'évangélisation personnelle. Si une personne venait à l'Église en raison de notre bon exemple, comprenez que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu s'est servi de notre exemple pour l'y amener. Priez pour de la patience. C'est là un problème pour nombre d'entre nous. Nous voulons convertir les gens sur le champ. Nous devons plutôt attendre l'intervention de Dieu. C'est lui qui convertit, et il le fera au moment qu'il jugera opportun. Ne cherchez pas à imposer votre volonté aux autres. Encore une fois, pensons à Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nous le savons, alors pensons-y. À moins que Dieu n'ouvre l'esprit d'une personne, il serait vain de tenter de le faire. Peu importe ce que nous ferions ou dirions. Je l'ai essayé, je sais que c'est peine perdue. Peu importe l'opinion que nous avons de nous-mêmes à propos de nos capacités, de notre intellect et de nos pouvoirs de persuasion. Ce n'est pas non plus une question de logique. Il est vrai que cela peut souvent impliquer une bonne dose d'émotion. Le facteur dominant reste toujours le même. Dieu a-t-il l'intention d'appeler cette personne? Si c'est non, alors il n'y a rien qui puisse changer cela. Veillons aussi à ne pas donner l'impression que nous avons honte de la vérité. Parfois, nous éviterons de parler aux gens, car nous sommes gênés de dire quelque chose. Peut-être que nous ne voudrons pas qu'ils pensent que nous sommes comme tous ces autres groupes, tels que les témoins de Jéhovah. Agir ainsi pourrait parfois nous faire rater une bonne occasion. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi, aurions-nous vraiment honte de nos croyances? Je ne le pense pas. Mais certains d'entre nous sont hésitants de parler alors que ce serait le bon moment de le faire. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est intéressant. Ici, Marc parle de cette génération adultère et pécheresse. Or, si vous lisez cela dans le contexte de notre société contemporaine, à quoi pensez-vous? Ne sommes-nous pas pointés du doigt par elle, parce que nous voulons nous conformer aux normes qui nous sont dictées par Dieu? Je vous ai peut-être déjà mentionné cela à un autre moment, mais qu'il me soit permis d'y revenir rapidement. Il m'est arrivé de demander à un de nos jeunes en Europe, je crois qu'il avait 15 ans, je lui ai demandé de me décrire un peu la situation qui prévaut actuellement dans les classes. Il me dit alors, « Quand le sujet de l'homosexualité est abordé et que vous vous déclarez en opposition, immédiatement tous les regards se tournent vers vous et on a la nette impression qu'on vous prend pour un désaxé. Ce n'est rien moins qu'une forme d'intimidation et les enseignants excellent dans ce genre de manipulation. Cependant, Dieu ne dit-il pas à Ézéchiel, « Ne t'effraie pas de leurs regards, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. » Comprenez bien qu'à mesure que nous progresserons au milieu de cette génération adultère et pécheresse, et il est difficile d'imaginer que pire nous attend, il nous faudra défendre nos couleurs avec tact et fermeté. Ne nous réfugions pas dans un silence complice. Dans nos lieux de travail, soyons prudents. Soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais n'ayons pas honte de nos croyances. N'ayons pas peur de dire « Je n'approuve pas cela ». Nous ne voudrons pas semer la discorde, mais il nous faudra défendre nos positions. C'est aussi pour cette raison que, lorsque je prêche à propos de certains sujets, il me faudra insister sur certains points et me tourner vers des versets appropriés, car je sais fort bien que si je ne le fais pas, toute une génération de jeunes va grandir sans jamais avoir été informée de ces choses. Il est bien évident que s'ils ne l'entendent pas de nous, ce n'est pas le monde qui va le leur enseigner. Là, on ne leur montrera qu'un côté de la médaille. À nous donc de leur montrer l'autre côté. Cela me rappelle cet incident qui eut lieu il y a 13 ou 14 ans. Nous avions ce jour-là deux visiteurs dans l'assemblée, et j'appris plus tard que c'était des lesbiennes. L'une d'elles était la fille d'un de nos membres, l'autre était son amie. Voyez-vous, en tant que ministre, lorsque nous prêchons, nous devons dire la vérité. Sinon, comment les gens sauront-ils? La Bible ne dit-elle pas? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ceci est dans Marc 8, verset 38. Dieu nous a appelés pour accomplir une œuvre. C'est notre mission, notre responsabilité. Comme je l'ai déjà dit, si Dieu n'appelle pas tout le monde, pourquoi en appelle-t-il quelques-uns? C'est parce qu'il a une œuvre à nous confier. Beaucoup d'entre vous y êtes impliqués directement. Et tous, nous sommes impliqués dans cette œuvre par nos prières, nos dîmes et nos offrandes. Nous le sommes aussi par notre exemple, à la fois parmi nous et dans le monde. Dans le monde, nous pouvons aussi nous impliquer par le biais des médias sociaux. Encore faut-il les utiliser judicieusement. Cela veut dire faire preuve de retenue et ne pas imposer nos connaissances sans discernement. Quand une porte s'ouvrira, franchissons-la. Ne soyons pas réticents de lire nos magazines, voire même la Bible, lorsque nous voyageons avec un moyen de transport public. Il se peut que cela éveille la curiosité de quelqu'un. d'une personne qui pourrait alors vous poser des questions, car nous vivons dans un pays où les gens s'expriment librement sur des sujets comme la religion. Évidemment, il y en aura que cela laissera indifférent, alors que d'autres vous prendront pour un fada. Qu'importe. De toute façon, il est très probable que vous ne les reverrez jamais, vu que cela se passera dans un avion, un train ou un bus. Dieu nous a appelés à son œuvre. La meilleure façon de nous rendre utiles, c'est en travaillant d'un commun accord et selon un esprit d'équipe. Il nous incombe par conséquent de prier Dieu pour qu'il bénisse notre effort collectif. Je me demande parfois ce qui se passerait si tous nous mettions plus de cœur dans nos prières lorsqu'ont lieu ces conférences pour nos abonnés ou lorsque nous lançons une nouvelle émission télévisée, mieux encore lorsqu'elle est encore au stade de la production. Et pourquoi ne pas prier pour ceux qui vont écrire des articles ou des commentaires, voire des brochures? Je sais, j'en oublie. Il y aurait tant de choses à considérer. Nous avons certes notre part de responsabilité dans le financement de l'œuvre. Je crois que, dans ce domaine, plusieurs vont même au-delà de ce qu'on attend d'eux. Témoignons notre gratitude à ceux qui, par leur dîme, ont rendu possible que nous soyons ici. Il est vrai que beaucoup de ceux qui avaient fait cela avant que je ne vienne à l'Église en 1964 ne sont plus parmi nous aujourd'hui. À cette personne qui m'avait envoyé cet email où elle me demandait ce qu'il nous était possible de faire pour nous rendre utiles, j'avais répondu qu'un jour, j'allais probablement donner un sermon sur le sujet. C'est maintenant chose faite. Il nous faut comprendre qu'il y a un tas de choses que nous pourrions faire. Par ailleurs, je suis persuadé que plusieurs d'entre nous font déjà plusieurs de ces choses à un degré ou à un autre. Réfléchissons à ce qu'il nous serait possible de faire en analysant les dons que Dieu nous a donnés. Posons-nous la question, comment puis-je contribuer davantage, sur le plan individuel, à faciliter la diffusion de l'Évangile de Dieu à travers le monde ?